10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Bonjour Marc Lambron.
Bonjour.
Redoutable privilège ou mission impossible, présenter un académicien sans être académique, esquisser le portrait d'un portraitiste mais sans forcer le trait. Aujourd'hui, nous avons rendez-vous avec un plongeur entre les lignes, avec un parolier des silences et des non-dits, un habitué des balles du pouvoir où les petits meurtres se jouent en gants blancs, une coupe de champagne à la main. Vous publiez Carnet de balles chez Grasset, partie 4 ou saison 4, dirait-on aujourd'hui, hein, recueil de vos coups d'œil sur des destins artistiques, des profils politiques, des fresques de la comédie humaine. Les Français, déconcertés par deux mandats de Guingois, cherchent à retrouver la puissance de la fonction présidentielle, de retrouver le grand homme, ce mélange de raffinement et de brutalité assumée. À ce propos, d'ailleurs, vous dites d'Emmanuel Macron qu'il ressemble à une boule lumineuse à multifacettes au-dessus des danseurs pendant les fêtes de Noël. Alors, on verra ce que ça signifie exactement. On va suivre donc avec vous, au cours de ce grand rendez-vous, votre regard avisé, acéré, amusé sur les événements marquants de l'année écoulée. On va également humer l'air du temps du XXIe siècle qui aborde une nouvelle décennie. Vous écrivez d'ailleurs dans votre livre « Toute élection est prélude à une déception ». Il est vrai qu'en France, le clivage est permanent entre les optimistes et les pessimistes. Alors avec vous, Marc Lambron, on voudra aussi savoir sous quelle bannière vous vous rangez. Vous, l'homme de lettres immortel puisqu'académicien, est-ce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil ou que rien ne se passe comme prévu ? Autour de vous, pour ce grand rendez-vous exceptionnel de fête, Nicolas Barré des Échos et Damien Fleurot de CNews.
Marc Lambron, bonjour. Alors il y a ce mouvement social que la France vit depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Je vous propose d'écouter ces réactions de Français en colère.
C'est capital de se mobiliser, parce que c'est vraiment scandaleux ce qui arrive pour l'ensemble des professions. C'est une mise à bas des acquis sociaux.
Nous qui travaillons 40 ans, on nous demande de travailler plus pour gagner moins. Mais vous comprenez bien que c'est inadmissible. Tous les gens devraient être révoltés. Aujourd'hui, il devrait y avoir une grève générale. Aujourd'hui, tout le monde devrait arrêter de travailler.
Marc Lambron, cet état d'esprit révolutionnaire, finalement, il traverse les époques, quelles que soient d'ailleurs les majorités, les présidents, ce que vous avez écrit.
D'abord, je vous remercie de m'accueillir parce que vous accueillez un naïf, un Pékin, un Huron, un citoyen. Je suis candidat à aucun mandat électif et je n'ai pas d'expertise universelle.
Vous êtes déjà élu, en fait.
Alors, oui, alors, c'est une élection à laquelle on se présente une fois et puis après, on marche vers le cimetière. Alors, ces images, elles m'évoquent plusieurs choses. D'abord, le ton de véhémence. Et là, je crois qu'on est dans une histoire française, c'est-à-dire que nous sommes un pays d'essence et d'aspiration révolutionnaire depuis au moins deux siècles. Et la conquête de ce qu'on appelle les acquis sociaux, elle s'est faite par révolution, par renversement, ou en tout cas par épreuve de force. Et à la différence de certains pays qui sont plus aptes à la cogestion, je pense à l'Allemagne ou au dialogue, là on voit bien qu'on est dans ce cadre assez français d'une opposition qui devient frontale et peut-être fractale. Ça, c'est la première chose.
Il n'y a pas de sincérité dans ce que l'on entend là ?
Bien sûr que oui, la véhémence, la souffrance sociale, ça c'est absolument une sincérité. Mais si je peux ajouter quelque chose, moi je suis toujours enclin à mettre en perspective ce qui arrive sur au moins trois générations, c'est-à-dire la nôtre et les deux précédentes. Et au fond, on peut le faire dans l'espace aussi. Pour moi, j'ai moins une opinion sur ce que je viens de voir que des questions. La première question, et ça renvoie plus largement à ce qu'on pourrait appeler la dépression française, nous sommes dans l'univers aujourd'hui, et depuis très longtemps, la première destination touristique mondiale. Il y a chaque année entre 86 et 89 millions d'étrangers qui viennent chez nous.
Mais ils viennent pour voir la France, pas les Français.
Les Français sont inclus. On n'est pas encore la bombe à neutrons, on n'a pas encore détruit la population. Ça veut dire que sur la planète, nous sommes regardés comme le lieu le plus désirable. Mmh. Or, ce pays est habité par des déprimés. Plus fort taux de consommation moyenne d'antidépresseurs par tête d'habitant. Donc, si j'étais à l'oral de l'ENA, je crois que je poserais comme question aux élèves. Pourquoi est-ce que le pays de Cocagne est habité par des déprimés ? Et là, il y a sans doute quelques réponses qu'on peut donner. À mon avis, pour aller vite, je pense qu'il y a le deuil de la grandeur française. Ça, c'est quelque chose qui se joue depuis 1940 et à travers les décolonisations. Il y a un empire qui a été perdu. Tant mieux d'ailleurs, parce que c'était préjudiciable aux colonisés. Mais je pense qu'il y a quand même ce sentiment-là.
Une nostalgie de l'empire.
Probablement une nostalgie de grandeur. Grandeur, c'est un mot qui veut dire quelque chose en France. Deuxièmement, je pense que ce que nous affrontons en ce moment, ce sont des systèmes extrêmement protecteurs qui ont été mis en place pendant une phase de prospérité, c'est-à-dire les Trente Glorieuses. Et nous y sommes habitués. Il y a ce qu'on appelle en économie un effet de cliquet, c'est-à-dire qu'une fois que vous êtes engagé, vous ne pouvez pas revenir en arrière. Et il nous faut prendre d'une façon ou d'une autre le deuil ou le deuil partiel de ce à quoi nous étions habitués.
Alors, mais ça on y arrivera. Mais il y a aussi un autre imaginaire, Nicolas Barré.
Est-ce qu'il y a un esprit aussi révolutionnaire ou pré-révolutionnaire aujourd'hui en France? Est-ce que ça fait partie de quelque chose de
Gavroche président,
de notre ADN?
Ça, je crois.
Gavroche président, c'est le mythe
français. Comme je disais à l'instant, il y a évidemment une cristallisation sur ce mode insurrectionnel qui appartient à notre histoire, sûrement. Ce que je pense aussi, c'est que quelque chose s'est joué depuis 3 ans en 2 temps. Il y a manifestement, et ça c'est mondial, ce qu'on appelle le dégagisme. Et le dégagisme, ça donne des solutions politiques extrêmes. Ça donne Trump, ça donne le Brexit, ça donne les Catalans insurgés, ça donne les démocratures en Europe de l'Est. Et je pense que l'élection de 2017 a témoigné d'une certaine sagesse française à cet égard. C'est-à-dire qu'il y a eu un dégagisme, mais on l'a joué au centre. Et moi, je voulais dire que j'étais quand même assez... Je ne croyais pas que le système était à ce point vermoulu. Juste un chiffre. Il y avait en 2012 214, je crois, députés socialistes à l'Assemblée. Il y en a 21, 5 ans plus tard. Donc, réduction par 10. Effondrement considérable. Donc ça, c'est le dégagisme par les urnes, en quelque sorte. Mais derrière, et dans l'année et demie qui a suivi, il y a le dégagisme par la rue. Et ça commence par les gilets jaunes, comme si ça se jouait en 2 temps. Et Macron, qui est l'agent d'un coup de balai, se retrouve lui-même.
Et il a effectivement.
Et il se retrouve comptable, ce qui, à mon avis, n'est pas tout à fait juste. Au bout de finalement 16 ou 17 mois de présence au pouvoir, c'est-à-dire assez peu, de 30 années au moins d'incurie ou de tergiversation ou d'immobilisme qui ont précédé. C'est un peu ça aussi le sens de la crise aujourd'hui.
Mais il se retrouve également comptable de ce fameux aussi principe de la contradiction française que vous évoquiez, qui est où les Français sont à la fois royalistes et régicides. Ils veulent un roi pour lui couper la tête.
Bien sûr.
C'est de cela également dont souffre aujourd'hui le président Macron.
C'est-à-dire que la constitution,
ou le pouvoir actuel.
La constitution de 58, bon, construite pour le général de Gaulle, en effet, c'est une monarchie républicaine. Bon. Il est d'ailleurs intéressant de voir que les principes en ont été maintenus. Commencé par François Mitterrand en 1981, qui n'a pas renversé la table. Bon, donc Macron, il est en effet au sommet de la pyramide. Et on voit revenir, ça c'est très intéressant historiquement, des cris et des désirs de meurtre qui, au fond, existaient à l'époque de Louis XVI, en quelque sorte.
On a vu réapparaître des guillotines sur des ronds-points en 2019.
On voit apparaître des guillotines, on voit même des marottes, des mannequins qui ont été symboliquement ou parodiquement... Mais en même temps, c'est le paradoxe français. C'est-à-dire qu'en temps de détresse, à la fois, on veut tuer le roi, et en même temps, on attend tout de l'État. Et ça aussi, c'est un des nœuds ou une des contradictions de la situation actuelle.
Alors, dans cet imaginaire français, il y a un territoire, il y a un lieu qui a aussi émergé, qui a trouvé au fond une nouvelle dimension. Ce sont les Champs-Élysées. On a vu d'ailleurs dès 2018, fin 2018, 1 million de Français, de fans, venir se rassembler pour suivre les obsèques de Johnny Hallyday. D'ailleurs, on regarde un extrait de l'hommage d'Emmanuel Macron à Johnny à la Madeleine.
Pour que le feu ne s'éteigne pas, je vous propose, où que vous soyez, qui que vous soyez, pour lui dire merci, pour qu'il ne meure jamais, d'applaudir Monsieur Johnny Hallyday.
Voilà, c'était le 9 décembre 2018. Dans votre livre, vous écrivez sur Johnny, il se tenait dans l'imaginaire français comme un monument national vivant, une sorte d'homme sablier qui arrêtait le filet de sable de la main. On dit aussi que Johnny, c'était la force des failles. Est-ce que c'était un héros français ?
D'abord, puisque nous parlons d'institutions, je crois que sa carrière, depuis ses débuts sous la 4e République, a correspondu à 9 présidents de la République. Donc, la monarchie,
la monarchie des
décibels, c'est lui, le roi de France, en quelque sorte. Donc, c'est la mort d'un roi. Et dans la scène qu'on vient de voir, ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que c'est une occasion qui est donnée à Emmanuel Macron de se connecter avec le peuple, avec les bikers qui sont là, avec le million de personnes qui est rassemblée sur les Champs-Élysées. En effet, les Champs-Élysées, évidemment, lieu symbolique, parce que l'Arc de Triomphe célèbre finalement une gloire militaire impériale. Et c'est là que, en 40, en contournant l'Arc de Triomphe, les troupes allemandes défilent. C'est là qu'en juin 68, la contre-manifestation remet le général de Gaulle en selle. C'est là que des obsèques nationales s'inscrivent. Et c'est là que les Gilets jaunes vont aller profaner précisément cet Arc de Triomphe et détruire des statues de la République.
Oui, parce que le dernier album de Johnny s'appelait « Mon pays, c'est l'amour », mais eux, leur pays, c'est devenu la colère. Un an plus tard, une partie de ces blousons noirs, de ces bikers, devenaient des Gilets jaunes.
Ça, je ne sais pas. Ce sont les mêmes ? Je ne sais pas si les jaunes défilaient en biker, en moto, probablement pour partie.
On a beaucoup dit que les femmes de Johnny, c'était la France qui n'avait pas voté pour Macron qui était arrivé. Bah, est-ce que c'est vrai ?
Peut-être voulait-il non pas retenir la nuit, mais plutôt allumer le feu ce jour-là.
Mais c'était une colère extrêmement violente, inédite d'ailleurs, sur un lieu symbolique, vous l'avez dit. Est-ce qu'on pourrait la revivre demain?
On l'a revécu il y a quelques semaines lorsqu'il y a profanation de la stèle du maréchal Juin, place d'Italie. Et c'est assez singulier d'ailleurs, parce que qu'est-ce que c'est que le maréchal Juin? C'est un des quatre maréchaux de la Seconde Guerre mondiale, avec Koenig, Delattre et Leclerc. Donc après tout, des hommes qui ont sauvé la France, ou qui ont en tout cas contribué à le faire. En outre, c'est le dernier, je vous le signale, le dernier militaire ayant siégé à l'Académie française. Il est mort en 1966, et là aussi, preuve de d'un certain deuil de la Grande France, il n'y a plus de maréchaux de France, parce qu'il n'y a plus de guerre. On peut s'en féliciter.
Alors, quand on cherche justement à définir un petit peu l'état de la société française, il y a un nouveau label qui est apparu en 2019 sous l'écriture, la plume du politologue Jérôme Fourquet, c'est l'archipel. La France maintenant est archipélisée. Ce mythe de rassemblement, c'est terminé. On est maintenant archipel.
Alors, je pense qu'il y a eu d'autres archipels. Que la France, avant l'unification royale, elle était déjà une France de l'archipel. Elle a été un archipel linguistique. Au fond, il faut attendre la Révolution, l'abbé Grégoire, pour que l'unification par la langue française s'impose dans les terroirs et face au patois. Il y a eu des archipels, ou en tout cas des luttes front contre front dans les grandes querelles françaises. Au moment de l'affaire Dreyfus, ce n'est pas un archipel, mais enfin c'est un litige. C'est quand même un peuple qui vidons assez violemment nos conflits. Je ne vous parle pas de Vichy. Bon, alors là, c'est un autre type d'archipel, c'est-à-dire, ça serait le rat des villes et le rat des champs, si je parlais comme La Fontaine. C'était, autrement dit, les deux France, la France périphérique et la France urbaine, la France macronienne et la France jaune, en gilet jaune.
On continue donc à explorer ce pays, cet archipel, la France en 2019 et bientôt en 2020.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1 avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et l'on retrouve Marc Lambron, notre invité exceptionnel, donc membre de l'Académie française, qui regarde donc la vie de notre époque, la vie de notre pays, qui vient de publier donc Carnet de bal chez Grasset. Damien Fleurot.
Oui, vous étiez le 1er juillet 2019. Aux côtés d'Édouard Philippe, le chef du gouvernement, pour une conférence. Est-ce que le Premier ministre, Édouard Philippe, est la révélation de cette année, selon vous? Est-ce que c'est comme cela que vous pouvez le percevoir?
Révélation ou mutation?
Moi, j'étais à ses côtés. Pourquoi? Il faut le dire. Parce qu'un institut lui a proposé de s'exprimer pendant une heure.
Il nous a reçu
à Matignon sur son rapport au livre. Entre parenthèses, c'est probablement depuis Georges Pompidou, le premier ministre français en activité, qui éprouve le besoin de rédiger, de faire publier un livre sur son rapport à la littérature. Là nous sommes en France. Donc ça, c'était le propos. D'ailleurs, assez intéressant, parce que quand on l'interroge sur ses goûts littéraires, on voit bien qu'il y a un côté mousquetaire. Il adore Alexandre Dumas et il adore Cyrano. Donc, il s'inscrit du côté de la France des bretteurs, si vous voulez, des tireurs d'épée. Après, ce qui m'avait frappé aussi, c'est qu'il était venu, d'ailleurs, je crois qu'on le voit sur la photo, à côté de lui, sur le tabouret, avec une dizaine de livres. Preuve de son programme de lecture d'été. Et c'était un programme thématique. C'est peut-être un peu énarque, pour le coup. C'est-à-dire qu'on prend un sujet et on essaie d'en extraire tout le suc. Et là, il y avait deux thèmes pour l'été 2019 du Premier ministre. D'une part, c'était la Rome antique. Là, la vie des Césars peut peut-être fournir quelques recettes pour un homme de pouvoir. Et par ailleurs, les biotechnologies, la logique du vivant. Et à mon avis, les questions de PMA et de GPA pouvaient se profiler. Voilà ce que j'ai vu. Et nous n'avons parlé que de livres.
Il faut être un homme de lettres comme ça en France pour réussir en politique, en quelque sorte. Comment est-ce que vous interprétez ça?
Pour être homme d'État?
Pas nécessairement, mais enfin, je crois qu'il y a quand même une sorte d'investiture subliminale, invisible, qui est que le roi, le corps du roi, est un corps lettré. La littérature française, elle est née très largement à la cour, avec les grands chroniqueurs du Moyen-Âge, Comines et Froissart, qui étaient dans l'entourage du roi. On commençait, Louis XIV protégeait Molière, Racine, Bossuet. Et si vous considérez le XXe siècle, les années 20 et 30 font nombre de présidents du Conseil sont des normaliens, sont des lettrés, sont des hommes de la République des professeurs. Et sous la Ve, Général de Gaulle est un écrivain. Georges Pompidou est un normalien, ancien professeur de lettres. François Mitterrand respirait par toutes ses fibres la littérature française, surtout celle du terroir. Alors après, ça se discute.
Il y a eu une petite baisse de régime.
On peut dire qu'il y a quand même, j'oserais dire, 22 ans. C'est-à-dire 12 années de président Chirac et 5 années avec les 5 et 5 avec les dauphins. Alors Macron, oui. Macron, c'est assez intéressant parce qu'on voit revenir justement la fibre littéraire au sommet du pouvoir.
Enfin, moins peut-être que d'autres, parce que vous écrivez dans votre livre « Depuis Malraux, Pompidou et Mitterrand », vous l'avez évoqué, pour la première fois en 2017, on a vu des esprits littéraires tourner autour d'une envie de magistrature suprême, le normalien Juppé, le normalien Le Maire. Est-ce que vous placez Emmanuel Macron dans cette catégorie ou Édouard Philippe dans cette catégorie, puisqu'il est plus proche finalement de l'écriture littéraire?
Emmanuel Macron a raté l'école normale supérieure, mais il a réussi l'ENA. Et il en est bien sorti. S'il fallait que je fasse une radiographie, que je prête l'empreinte ADN culturelle du président de la République, moi, ce qui me frappe, c'est combien il est polymorphe. Quand vous parliez tout à l'heure de la boule de Noël qui tourne, parce que même s'il n'a que 42 ans aujourd'hui, je pense qu'il a en lui-même quatre composantes, quatre atouts de l'identité politique française. C'est un homme lettré, c'est un élève de Ricoeur, c'est quelqu'un qui respire tout de même par la littérature, qui a d'ailleurs posé pour sa photo officielle avec trois livres, comme l'avait fait autrefois François Mitterrand, qui avait un Montaigne dans la main. Donc ça, c'est pour le côté Herriot Blum, le côté années 30,
mais
le côté
Ratzok. Mais pourtant, vous êtes acéré quand vous parlez de lui. Vous avez écrit, vous avez dit, déclaré dans une conférence à l'Assemblée nationale organisée par Sciences Po en décembre 2017, Emmanuel Macron, c'est Jeff Bezos ou Mark Zuckerberg qui met ses fesses dans le fauteuil de Clémenceau. Là, vous êtes quand même plus taquin et même, quelque part, plus critique.
Je crois que je disais ça pour, justement, récuser en même temps. J'aurais dû dire, on veut que ce soit ceci ou cela, et c'est plus compliqué. Pour aller vite, les quatre identités, c'est cette identité de vieille république. C'est un énarque. Donc, pendant les Trente Glorieuses, la France a été administrée, renouvelée par... Par des énarques, en réalité. Donc, il coche aussi cette case. Troisièmement, il a passé 3 ans dans la finance. Mmh. Il en est revenu, d'ailleurs. Il n'y est pas resté. Mais il a quand même quelques savoirs sur ce qu'a été l'économie des années 90, 2000, 2010. Et puis, depuis 10 ans, on est dans la société de la toile, dans la société 2.0. Et ça, c'est sa génération. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'un même homme cumule, comme une compression de César, en quelque sorte, quatre aspects de l'identité du pouvoir en France depuis un siècle.
Est-ce qu'on peut le rapprocher aussi de la figure d'un Machiavel pour l'habileté dont il a fait preuve dans la conquête du pouvoir, puisque c'est assez sidérant finalement ce qui lui est arrivé. Mais
il a fait son mémoire de philosophie à Nanterre sur Machiavel, Emmanuel Macron. Est-ce que c'est Machiavel-Macron à l'Élysée.
Il ne faut pas être enfant de Marie, à mon avis, pour devenir président de la République à 40 ans. Mais dans le jeu d'échecs ou dans le jeu de Go, il faut aussi identifier les failles. Il faut voir où sont les faiblesses de l'adversaire. Et ça, je pense que c'est un très bon détecteur de failles. C'est un très bon judoka. Il est manifestement très intelligent et d'ailleurs on le lui reproche. Ça fait partie des griefs qui lui sont adressés.
Mais Damien Fleurot,
votre première rencontre avec Emmanuel Macron, c'est quand il est ministre de l'économie, alors sous la présidence de François Hollande, je crois.
Oui.
Vous aviez senti lors de vos premiers échanges cette volonté suprême.
Là, on passe dans l'anecdote, mais enfin, je peux volontiers vous raconter ma première rencontre avec Emmanuel Macron. C'est un dîner chez un de vos confrères, un grand journaliste. Il y a autour de la table Guillaume Gallienne, Philippe Tesson, Roman Polanski, Daniel Thompson. Et bon, c'est assez showbiz, pour employer un mot. Mais à un moment, et ça me frappe rétrospectivement, je commence à raconter des historiettes, et il y en a beaucoup et de fort amusantes, sur Valéry Giscard d'Estaing. Et là, je vois qu'Emmanuel Macron répond et qu'on part dans une sorte de ping-pong et je vois qu'il est évidemment intéressé. Pourquoi? Parce que c'est un inspecteur des finances comme lui et c'est un homme qui a parvenu jeune au pouvoir comme lui. Et donc il y a eu cette espèce de suspension ou de partie de tennis avec renvoi. Et au fond, je me dis qu'il était en train de collecter quelques anecdotes sur ce qui lui ressemble le plus dans l'histoire des présidents de la cinquième.
Alors c'est vrai que
Je le trouve très rapide, je le trouve très extrêmement extrêmement vif, séducteur aussi quand même. Ça tout le monde le dit. Il séduirait une chaise. Et c'est vrai que...
Et mystérieux, parce que comme beaucoup, vous avez cherché à comprendre qui est-il, quel est le mystère donc d'Emmanuel Macron. On en parle après la pause.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et avec Marc Lambron de l'Académie française qui publie Carnet de balle saison 4 chez Grasset. Vous avez mené l'enquête pour, comme beaucoup, hein, pour essayer de comprendre la personnalité du président de la République. Et cette enquête vous mène sur les chemins, en plus c'est l'occasion, sur les chemins des bulles de champagne. Pourquoi ?
Ah oui, ça c'est une chose qui était assez... Alors avec Macron, il y a souvent un sous-texte. Il est en strate. Donc, il peut y avoir des messages subliminaux ou peut-être même des jeux avec lui-même, d'ailleurs. Alors, le jour de son investiture à l'Élysée, il y a en effet, un octuor à cordes, enfin, un petit orchestre qui est là et qui joue des airs. Et le premier air, je vois ça à la télévision, c'est en effet l'air du champagne du Don Juan de Mozart. Alors, l'air du champagne, c'est à la fois une liesse et une provocation, parce que Don Juan, c'est le libertin métaphysique. C'est celui qui, d'ailleurs, dans l'opéra, tue le commandeur et viole une femme. Et donc, il est dans cette position de provocation vis-à-vis de provocation métaphysique. Et à la fin, il part aux enfers, où le commandeur l'entraîne. Et alors, chose intéressante, parce que je pense que tout ça est assez crypté, succédait à l'air du champagne, du Don Juan de Mozart, un air d'Orphée aux enfers de Offenbach. Donc, c'est comme s'il y avait deux fois le démon, ou comme si dans cette provocation inaugurale, il y avait la possibilité...
Vous pensez que c'est fait exprès ?
Ah !
Vous qui aimez bien essayer de comprendre ce qui n'est pas dit.
C'est quand même étrange qu'il y ait comme ça deux musiques qui envisagent la possibilité de l'abîme ou de la damnation. Comme s'il avait voulu inscrire à la fois sa victoire et une possibilité de naufrage dans ses musiques. Sûrement, en tout cas, une sorte d'effronterie qui est quand même assez propre à Macron. Je pense qu'il est prêt à prendre la main du commandeur et non pas être entraîné aux enfers, mais à sortir le commandeur des enfers.
Alors, si on continue d'explorer la boule à facettes, vous disiez tout à l'heure donc il était comme cela. Il aime aussi beaucoup, et vous l'avez forcément réfléchi là-dessus, les propos de Michel Audiard. Il avait l'habitude de dire quand je serai élu, ce ne sera pas pour beurrer les tartines. C'est un président vintage, il aime les années 60, 70. Est-ce qu'au fond, c'est le dernier d'un monde ancien ou le premier d'un monde nouveau ?
Alors, je crois qu'il y a plusieurs choses. D'abord, Sainte-Beuve, dans un roman qui s'appelle Volupté, dit « Il n'y a rien de plus délectable et de plus mystérieux que les 15 années qui ont précédé notre naissance. Macron est né en 77, donc il est né à la fin des Trente Glorieuses, et on voit bien en effet qu'il est habité par la génération prospère, qui était aussi celle de ses parents. Première chose, ça c'est pour le temps. Deuxièmement, il a un côté karaoké pendant la fête de sortie de l'ENA. Il aime Michel Audiard. Il est né à Amiens. Je suis assez étonné quand on souligne ce nélitisme, parce qu'au fond, c'est quand même un garçon de province qui a suivi un itinéraire qui est décrit par Balzac, qui est décrit par Flaubert, qui est assez classique. Mais non, les choses se retournent facilement contre lui. Je me souviens, décembre 2017, il y a deux ans, il va skier à la Mongie. Pourquoi est-ce qu'il va skier à la Mongie? Parce que c'est une petite station populaire où il allait avec sa grand-mère. Qu'est-ce que je lis dans la presse? C'est une opération de communication. Non, je pense qu'il est là en intimité et en fidélité avec ses racines. Bon, donc tout est lisible de façon perverse dans le monde moderne.
Nicolas Barré, on continue.
Alors, quand on porte le regard sur cette année 2019 qui se termine, si vous deviez citer les trois personnalités qui ont marqué l'année, quelles seraient-elles?
Alors, je vais un peu tricher. C'est-à-dire, je vais être un peu personnel. Alors, personnalité mondiale, Greta Thunberg. Évidemment, ça me semble... voilà, couverture de Time, etc.
Et je vous effraie
avec Greta Thunberg, je ne suis pas tout à fait preneur. Pourquoi? D'abord parce que c'est le renversement d'une mythologie ou d'une sagesse qui était que ce sont les valeurs d'expérience qui éclairent l'avenir. Là, c'est l'inverse. Ce sont les valeurs d'innocence auxquelles on se sent peut-être nous-mêmes si frelatés ou si corrompus ou si pourris ou si menacés que la vérité sort de la bouche des enfants.
C'est la lanceuse d'alerte.
Oui, c'est ça, c'est la lanceuse d'alerte. Le futur, c'est elle.
C'est la lanceuse d'alerte. Alors, ce qui m'inquiète pour le futur, c'est qu'elle le fait d'une manière particulièrement renfrognée, véhémente, hystéroïde. Et un de mes critères dans la vie, c'est avec qui aimerais-je prendre le transsibérien? Eh bien, je n'ai pas très envie d'être dans le même compartiment que Greta Thunberg si je prends le transsibérien.
Alors, c'est la première personnalité.
Deuxième, ce n'est pas une personnalité, c'est un événement. Je vais en profiter pour dire quelque chose à nos nombreux compatriotes. Pour moi, un événement de l'année, il m'est très proche, c'est la mise en ligne du dictionnaire de l'Académie française. Je m'explique. Voilà la première édition du dictionnaire de l'Académie française, 1694. Nous en sommes à la 9e édition. Jusqu'alors, ce dictionnaire, qui est l'objet de nos travaux, il était réservé à quelques bibliothèques, universités ou particuliers, sur papier. Dernière édition, 3000 exemplaires. Donc là, on était dans une sorte d'élitisme. Eh bien, depuis quelques jours, les 9 éditions de ce dictionnaire sont en ligne sur un site dédié, gratuit, universel. Donc, il aura fallu 380 ans pour que l'Académie accède à une vraie mission de service public.
Donc, c'est quoi? C'est l'Académie hors les murs? C'est l'Académie 2.0? Vous mettez en phase avec le 21e siècle, c'est ça?
Étrangement, c'est l'Académie mondialisée, c'est-à-dire qu'une une très ancienne institution qui a miraculeusement traversé les époques et les régimes fait alliance avec la modernité télématique. Et vous pouvez aller sur ce site, il y a des liens hypertextes extrêmement ramifiés. Et voilà, mission accomplie.
Mais ça, c'est très intéressant.
Ça, c'est une deuxième chose.
Parfait, mission accomplie, mais quand même, elle provoque une remarque et un commentaire. Votre collègue immortel, académicien également, Alain Finkielkraut, dans cette même assemblée, au moment où vous me parlez de cette modernité, lui a dit « il faut maintenant être capable de résister au sens de l'histoire, à cette modernité qui nous impose une sorte de nihilisme à visage humain ». Alors, est-ce que vous êtes d'accord avec lui? Est-ce que vous trouvez qu'effectivement, la nouvelle dictature, c'est un peu la révolution progressiste telle que lui la dénonce?
D'abord, l'actualité, c'est l'Académie française, pardon, c'est polychrome. Heureusement, c'est pluriel.
Par exemple, l'intérêt.
Entre parenthèses, on dit souvent c'est une ruche de réactionnaires. Nous avons reçu, il y a 3 semaines, Barbara Cassin, qui coécrit des livres avec Alain Badiou, qui est le dernier maoïste français. Bon, donc, il y a quand même...
C'est votre caution révolutionnaire, là.
Nous avons notre caution révolutionnaire. Alain Finkielkraut...
En quelques mots.
Il pense que l'Internet, c'est la poubelle mondiale. Et moi, je pense que l'Internet, c'est un autoportrait. C'est-à-dire que, quand vous regardez les consultations, on a tout, on a le savoir universel. Donc, vous faites votre marché, moi, je m'en sers beaucoup en termes de mémoire, enfin d'éléments de savoir. Donc, soit c'est une bibliothèque, soit c'est une poubelle, soit c'est les deux, mais moi, je fais plutôt un usage de bibliophile.
Nicolas Barré.
Et alors, votre troisième événement ou personnage de l'année ?
Eh bien, là aussi, je vais vous décevoir. Il y a des artistes qui accompagnent les gens de mon âge depuis 40 ans. Modiano, je le lis depuis 1974 et il a publié un livre cette année. Vous savez que j'aime beaucoup le rock. Les Rolling Stones, Eric Clapton, qui sont mes grands frères, qui ont 10 ans de plus que moi, sont toujours en ligne. Je suis toujours protégé par leur talent. Et donc, je pourrais vous dire que, parce que les morts aussi ont du talent, qu'un événement récent pour moi, c'est la publication des 4 concerts intégraux que Jimi Hendrix a donné fin 1969 au Filmorice de New York sous le titre Band of Gypsies.
Sans transition.
Événement privé.
Les morts ont du talent, vous dites. Vous ne citez pas dans les personnalités de l'année un grand disparu, un ancien président de la République, Jacques Chirac. Je vous propose d'écouter ses réactions au moment de l'hommage à l'ancien président de la République.
Il restera marqué quand même dans notre vie, on est un peu de la même génération. Et franchement, je suis très touché. On ne va pas le comparer à De Gaulle, mais franchement, il n'est pas loin derrière.
À l'instant T, on ne se rend pas compte, mais je pense que dans les jours, les mois, les années à venir, on se dira « j'étais présent pour ce moment ».
Marc Lambron, il y a eu des milliers de Français qui sont venus aux Invalides, mais aussi en Corrèze, qui se sont recueillis. Est-ce que pour autant c'était un véritable hommage populaire ?
De quoi prenait-il le deuil ? Oui, ça, je crois qu'il y a eu, un hommage populaire.
Jacques Chirac, quand même président particulièrement détesté quand il était au pouvoir.
Oui. En même temps, éphémère, parce qu'on est quand même aujourd'hui, il y a des espèces de hoquet comme ça, de sensiblerie, ça dure 3 jours et on passe à autre chose. Donc, les sentiments sont zappable. Permettez-moi ce néologisme. Après, moi, j'ai des sentiments mêlés vis-à-vis de Jacques Chirac, qui sont des sentiments de génération. J'entre dans la première soixantaine et j'aurais connu politiquement une France bipolaire, droite, gauche, 14 ans de Mitterrand, 12 ans de Chirac, ça fait 26 ans. Ça fait une vie d'homme, de la jeunesse à la maturité. Ça aurait pu être pire, ça aurait pu être mieux. Et pour moi, d'ailleurs, ça explique. Je pense que ma génération a été trop docile, que nous étions, notamment du côté des cadres de l'État, des très bons mimes, mais que nous n'avons pas renversé la table, nous n'avons pas été assez démiurgiques. Et c'est aussi une des clés, je crois, de la crise actuelle et aussi du mouvement qui a été celui d'un certain nombre de femmes et d'hommes de mon âge, de dire, nous avons failli, passons les clés du royaume à la génération suivante.
Donc c'est l'élite ils vont essayer. Qui a failli également
Oui, je pense que les élites françaises...
Ce qui est beaucoup reproché aujourd'hui.
Oui, mais pas forcément comme on le dit. Ce n'est pas qu'elles ont capté indûment un pouvoir, c'est qu'elles n'ont pas su le sculpter à la mesure et au rythme des changements. Donc oui, une certaine inertie, une certaine navigation à vue. Et maintenant, tout se précipite avec une intention quand même de réforme. Parce qu'on ne peut pas dire que Macron se défausse ou se dérobe à ce qu'il a voulu, à ce qu'il a promis. Mais à suivre.
Alors, on va continuer à explorer l'année 2019 avec les flammes du printemps, après la pause.
10h, 11h, le grand rendez-vous Europe 1, avec Les Échos et CNews.
Nicolas Barré, Damien Fleurot, Mickaël Darmon.
Et Marc Lambron de l'Académie française, que l'on retrouve auteur donc de Carnet de bal, qui est une exploration, un voyage à travers notre époque, à travers les fresques également de la comédie humaine et politique. Le printemps 2019 a été marqué par des flammes, par un feu, par un incendie, celui de Notre-Dame. Est-ce que c'était pour vous un incendie, au fond, avec des significations politiques et sociétales ?
Pour moi, signification très forte, parce que nous sommes dans une société tout de même très déconfessionnalisée, même s'il y a un terreau catholique ancien. Et cet incendie bouleverse nombre de nos compatriotes, qu'ils soient de droite, de gauche, même M. Mélenchon est venu. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est un lieu de culte, mais c'est devenu un lieu de mémoire. Et donc l'enjeu, c'est ce qu'on appelle parfois l'identité, ou en tout cas l'histoire française. Alors pardonnez-moi, mais moi je l'ai vu aussi depuis l'Académie française. Parce que l'Académie française, qui est souvent décriée, vous savez, nous sommes tous alzheimériens, séniles, gâteux, etc. L'Académie française, comme institution, elle est créée par Richelieu en 1735. Elle était là avant le Versailles de Louis XIV, avant la Marseillaise, avant le drapeau tricolore, avant la Tour Eiffel, avant le Tour de France, avant le Festival de Cannes. Tous ces marqueurs du temps français. Et nous sommes, oui, ce que Pierre Nora appelle un lieu de mémoire, et mystérieusement vivant. Parce que si vous voulez, Versailles était un château, c'est un musée. L'Académie, ça se comparerait plutôt à certaines églises romanes du 12e ou 13e siècle,
vous dites, au fond,
où on célèbre encore la messe.
Mais alors finalement,
donc il y a ces...
Vous n'avez peut-être peu de considération pour ce qui s'est passé avec Notre-Dame, vous dites, heureusement que l'Académie est là, vous dites.
Non, ce que je vous dis, c'est que je vois ça comme un enjeu patrimonial et qui révèle l'attachement de nos compatriotes précisément pour des lieux qui cristallisent cette histoire.
Un symbole aussi d'unité de la nation dans un pays qu'on a décrit archipel, on le disait précédemment.
C'est un symbole littéraire, parce qu'évidemment, Notre-Dame de Paris, elle est connue mondialement sans doute grâce à Victor Hugo. Donc c'est extrêmement français, parce qu'il y a une cathédrale de pierre qui devient une cathédrale de mots. Alors les faits, c'est le lieu où en 40... On fait chanter un Tédéum pour arrêter les Panzers de l'armée allemande. C'est le lieu des obsèques, ou de la messe en tout cas, dite pour le général de Gaulle ou pour François Mitterrand. Enfin,
c'est le début des chemins, c'est le kilomètre zéro.
Oui, et c'est le kilomètre zéro. C'est de manière radiale, à partir de cette île de la cité, qui est le cœur de Lutèce, donc finalement de ce qui va devenir le centralisme français. C'est ce lieu-là qui flambe. Et c'est cette flèche qui tombe.
Et qu'il faut reconstruire à l'identique.
Moi, je serais assez enclin à la reconstruire à l'identique, sachant que cette flèche est une fiction. Parce que vous regardez les premières photos vers 1840-1845, il n'y a pas de flèche. Elle avait été démantelée pour des raisons de sécurité, semble-t-il, au moment de la Révolution française. Et donc, c'est Viollet-le-Duc qui refait sa version. Donc, ça n'interdit pas au XXIe siècle de réinterpréter. Mais après tout, moi j'aimerais que cette flèche ressemble à toutes les traces qu'elle a laissées sur les tableaux, par exemple, des nombreux peintres, impressionnistes ou autres. J'aurais assez envie que ce soit l'art qui a capté un monument et que le réel ressemble à l'art.
Alors on revient à l'Académie française. Damien Fleurot.
Oui, dans 10 jours se tient une séance particulière à l'Académie française. Il s'agira de trouver l'académicien ou l'académicienne qui prendra le fauteuil de Simone Veil, décédée en juin 2017, mais dont le fauteuil a été déclaré vacant en octobre de cette année 2019. Vous avez un favori ?
Alors, c'est un cas exceptionnel. C'est la première fois depuis Victor Hugo qui, à sa mort, est allé directement de son domicile au Panthéon, avec 2 millions de Français qui l'accompagnaient. C'est la première fois que l'Académie française devra trouver un successeur à un académicien ou une académicienne qui est déjà au Panthéon. C'est-à-dire, elle a reçu l'honneur suprême, et nous, elle est inscrite dans la pierre, dans la légende, et nous, il faut trouver une femme ou un homme vivant qui va lui succéder. Alors, je ne vais pas vous déflorer le... Parce que j'en sais rien, à vrai dire. C'est une élection. Mais le raisonnement, je crois, de l'Académie en ce moment est le suivant. Nous ne trouverons jamais en France quelqu'un, que ce soit un politique, que ce soit un écrivain, même un prix Nobel de médecine, qui atteigne à la stature de Simone Veil. Simone Veil, c'était une grande européenne. D'où l'idée de cette Académie, qui est une Académie de la francophonie, d'aller chercher, non pas un Français, mais un Européen. Et donc, la condition pour entrer à l'Académie, ce n'est pas une condition de nationalité, c'est une condition de langue d'écriture. Donc, nous sommes à la recherche d'un Européen ou d'une Européenne, donc la langue d'écriture serait le français, et qui serait invité à l'Académie française, dont je signale quand même qu'elle accueille François Cheng, qui est d'origine chinoise, Daniela Ferrière, qui est à la fois haïtien et québécois, Sir Michael Edwards, qui est français et anglais, Amin Malouf, qui est libanais. C'est aussi un... C'est pas justement un, un, un lieu de nationalisme étroit. C'est un lieu où souffle le vent du monde et de cette langue.
Durant ce grand rendez-vous, vous avez pratiquement inventé un mot, mis un mot dans le dictionnaire.
Zappable.
Et vous avez passé donc une petite annonce quelque part pour trouver le candidat ou la candidate idoine. Mais sur Simone Veil, vous alliez encore plus loin dans votre livre. Vous avez dit, en fond, elle exprimait cette figure de l'humanisme à la française, alors qu'aujourd'hui nous vivons sous le règne du transhumanisme mondialisé. Elle avait permis à la révolution de l'époque de ne pas avoir d'enfants. La révolution d'aujourd'hui, c'est en avoir à tout prix. Est-ce que justement ce changement d'époque, ce changement de code vers lequel on va, est-ce qu'il doit faire peur, ou est-ce que vous voulez nous rassurer?
Simone Veil, elle est de cette génération qui a connu l'infamie et qui a construit la paix. Et en effet, ça me frappe la chose suivante, c'est que quand j'étais jeune, quand j'étais adolescent, dans les années 70, la liberté s'identifiait avec le fait de ne pas avoir d'enfant, ou en tout cas de différer le moment de la conception, de le choisir, que ce soit par la pilule ou par l'IVG dont elle a été porteuse. Et aujourd'hui, je vois bien que, alors même qu'on est dans un monde « Winter is coming », pour le dire en anglais, dans Game of Thrones. Nous sommes menacés par l'arrivée possible d'un hiver général. La revendication de liberté, elle va plutôt vers la surfécondité ou le transhumanisme, c'est-à-dire PMA, GPA, FIVET. Et si vous vous y opposez, vous passez pour un réactionnaire. Alors qu'en 75, si vous aviez dit « faites des enfants », vous auriez passé pour une sorte de nataliste obtus. Donc en effet, les marqueurs de liberté bougent avec le temps. Et il y a évidemment cette idée de, l'académicien va vous dire, de l'immortel. Je vois que l'idée d'immortalité en ce moment...
Ça va devenir un modèle économique.
Faveur, puisqu'on cherche une sorte de béquille bionique pour vivre plus longtemps
Nicolas Barré, pour Marc Lambron,
que notre limite.
Vous évoquez l'entrée de l'Académie française dans la modernité avec la mise en ligne du dictionnaire de l'Académie. Est-ce que l'entrée dans la modernité, ça ne signifie pas aussi davantage de femmes à l'Académie française? Je crois qu'il y en a 4 sur les 40.
Il y en a 5 dans l'actuelle Académie, si je ne me trompe.
5 sur 40.
Oui. Oui, il y en a 9.
Alors, un petit progrès.
Il y en a 9 depuis Marguerite Yourcenar, donc c'est assez peu. Mais l'Académie, c'est pas une question de... La question du quota ne se pose pas. Je pense qu'en cela, on est assez républicain. C'est le talent qui vient avant les quotas. Alors, en effet, il y a peu de femmes qui se présentent, pour commencer. Parce que, dites-moi qui vous auriez envie de voir à l'Académie française, et nous serons ravis de les solliciter. Ceci, c'est très entre nous. Il n'est pas sûr.
Ça ne sortira pas du studio.
Il n'est pas sûr que dans une compagnie comme celle-ci, les femmes déjà en place soient les plus favorables à l'arrivée d'autres femmes. Enfin bon, ça, c'est une,
question. Se poursuivra sûrement.
Et vous n'avez pas, en ma personne, un machiste consommé. Moi, je suis tout à fait pour que les femmes entrent. Mais je ne m'arrête pas non plus au genre comme critère de sélection. Et maintenant, dites-moi qui vous verriez à l'Académie, ça m'intéresse. Parce que quand on pose la question, c'est assez curieux de voir que les noms ne se sortent pas spontanément.
Alors à propos genre, justement, est-ce que pour vous, l'évolution du genre humain, ça sera le robot sapiens?
On est déjà quand même très appareillé avec toutes sortes de prothèses techniques. Michel Serres aimait à dire que nous avons, avec des téléphones intelligents, à tout le moins le contenu de la BNF, c'est-à-dire, et beaucoup plus en réalité. Ce qui d'ailleurs peut induire une certaine paresse,
dans un accès,
puisque la mémoire est une mémoire détachée, c'est une mémoire... Donc oui, je pense que nous allons vivre avec toutes sortes de prothèses, et que, en effet, vieillir maintenant, c'est être, je vais employer un mot anglais, c'est être customisé, c'est être appareillé, c'est être augmenté ou remplacé. C'est-à-dire
c'est un progrès, c'est une augmentation du progrès, ou c'est une régression?
Est-ce que vous pensez que la hanche artificielle de Johnny Hallyday, qui lui a permis de chanter au moins 10 ans de plus, était une régression? Non, c'est une... Je pense que c'est le progrès technique démocratisé. Donc moi, je ne suis pas ennemi de ce qui me permettrait, quoi qu'immortel, d'être moins longtemps mortel.
Mais c'est justement un bouleversement au-delà de la politique
bien sûr.
Publique, parce qu'au fond, comme le dit l'essayiste Yuval Harari, finalement, l'homme devient l'égal de Dieu, homo Deus, c'est-à-dire que le créateur devient maintenant totalement un modèle économique. On peut tout à fait devenir l'égal de Dieu parce qu'on a la capacité de pouvoir prolonger la vie indéfiniment, recréer les organes.
Oui, la première capacité.
Est-ce que ce n'est pas un grand bouleversement qui se prépare là?
La première égalité avec Dieu, c'est tout de même de faire des enfants. Chacun d'entre nous est créateur. La question, c'est qu'est-ce que c'est qu'un monde où il y a 8 milliards ou 9 milliards d'individus, quand, à ma naissance, il y en avait 3, à peu près.
Donc, et comment nous sommes des murges,
et en plus, nous souhaitons être prolongés, alors même que nous sommes sous ces menaces catastrophistes, et que Greta Thunberg joue Philippe Ulus, le prophète, dans Tintin, en nous annonçant que c'est bientôt fini. Donc après, on peut comprendre que la planète et les mentalités soient un peu troublées, bouleversées. En ce moment, oui, l'idée d'apocalypse revient. Et elle est déjà dans les Écritures saintes il y a fort longtemps.
Mais ça veut dire que finalement, pour la question du début, vous êtes dans quel camp ? Rien de nouveau sous le soleil ou rien ne se passe comme prévu ?
Non, je pense qu'il y a du nouveau sous le soleil. C'est-à-dire la maison devient plus petite. Qu'elle ne l'a été, mais la maison est mieux éclairée. Il y a l'électricité à tous les étages. Et d'ailleurs, dans ce blues, cette dépression occidentale, c'est faire bon marché, si on raisonne en termes planétaires, du fait que les pandémies sont quasiment éliminées, que la mortalité infantile est éliminée, que certains pays dits du tiers-monde ont eu des croissances à 10% ces dernières années, et qu'au fond, ça irait plutôt mieux sur l'ensemble de la planète au moment où nous sommes. Mais évidemment, entre la Chine, entre les États-Unis, entre les GAFA ou les GAFAM, entre toutes ces hydres qui sont des hydres croissantes et en combat, la petite Europe, qui est pourtant un grand continent, peut se sentir, peut-être plus qu'ailleurs dans le monde, menacée. Mais tout ça est paradoxal. Par exemple, là, l'académicien parle. La question de la francophonie, c'est intéressant. Il y a 250 millions de locuteurs français aujourd'hui. Avec la natalité africaine en prévision, il y en aura 750 en 2050. Donc le français n'est pas une langue morte ou menacée. En réalité, par le nombre de locuteurs, c'est une langue d'avenir.
Merci Marc Lambron de nous avoir accompagnés sur ces derniers mètres de l'année 2019 et nous permettre d'aborder 2020. Donc avec aussi au son espoir et intérêt.
Je vous remercie.